Merci Julien.
Merci Monsieur le Président, merci cher Alain. J'ai plus qu'à faire un compliment, quoi, en gros.
Voilà.
Voilà, l'exposé est fait. Merci en tout cas à chacun d'être là. Et effectivement, comme l'a dit le professeur Guillotin, nous surfons sur l'actualité puisque depuis quelques jours, le salon de l'agriculture est ouvert et que le Maroc est l'invité d'honneur. C'est la première fois d'ailleurs qu'un pays est invité d'honneur au salon de l'agriculture. Et d'après les organisateurs, parmi les raisons de ce choix, il y a, je cite, « les perspectives de développement durable et d'innovation dans l'agriculture d'un côté et de l'autre de la Méditerranée ». Voilà qui justifie donc que nous abordions la responsabilité environnementale des entreprises agricoles dans l'espace euro-méditerranéen, ce que je ferai de façon abrégée, je dirais, pour ne pas manquer à ma responsabilité de devoir vous nourrir ensuite. Le paysan souffre, si vous voulez, c'est presque un truisme, c'est clairement un euphémisme. L'entreprise agricole est en difficulté, pas seulement au sens du livre 6 du Code de commerce. Les manifestations du monde agricole sont récurrentes et elles se multiplient, elles s'intensifient, pas seulement en France, en Tunisie, il y a quelque temps, en Allemagne, en Italie, en Roumanie. Et parmi les revendications constantes de nos agriculteurs figure l'allègement du poids des normes et leur simplification, ce qui nous renvoie à l'intervention du professeur Coupé ce matin au sujet du paquet Omnibus. Or, je n'y reviendrai évidemment pas en détail, mais ce fardeau qui est dénoncé résulte en grande partie de la volonté du législateur, vous l'avez remarqué à travers toutes les interventions, de verdir l'agriculture après l'avoir industrialisée, de la volonté d'introduire une culture écologique dans les cultures intensives et de passer d'une chimie écocide à une chimie agroécologique. Le secteur agricole, donc, entretient un rapport ambivalent avec la RSE parce que les agriculteurs sont avant tout responsables de nourrir les populations. Les entreprises agricoles doivent intégrer les critères sociaux et environnementaux à coût constant, évidemment, voire à coût réduit. Ces entreprises agricoles sont constitutives de l'environnement auquel elles s'intègrent, qu'elles façonnent, qu'elles entretiennent, qui valorisent les terroirs, dont elles sont aussi accusées de la plupart des maux, puisqu'on les accuse de pollution des terres, de pollution des cours d'eau, Sarah en a parlé à l'instant, hein, d'utilisation d'engrais, de produits chimiques, je passe sur la pollution au méthane des élevages, sur les problèmes de maltraitance animalière, sur les problèmes de méga-bassines, ou d'installation de fermes photovoltaïques dans nos campagnes. Tout ça marque l'actualité assez régulièrement. Au fond, c'est donc davantage autour des questions environnementales que se focalise la responsabilité sociale, au sens large, c'est-à-dire sociétale, finalement, des entreprises agricoles, que sur les questions qui tiennent aux conditions de travail et de gouvernance. Depuis longtemps, le législateur est intervenu en ces domaines, il s'est emparé de la question de la performance environnementale, mais évoquer la RSE dans le monde agricole renvoie à deux conceptions juridiques assez éloignées, on les a aperçues au cours de la matinée, de la responsabilité, bien qu'elles poursuivent la même finalité. La première conception, c'est une conception finalement juridique de la responsabilité, proprement juridique, avec des obligations légales qui sont imposées aux exploitations pour respecter l'environnement naturel. Et donc, nous sommes là sur du droit dur, avec des sanctions administratives, pénales, éventuellement fiscales, civiles. Et puis la seconde conception, donc ça, cette première conception, on la retrouve, hein, Sarah le disait, dans les articles 1246 et suivants du Code civil, hein, donc la réparation du préjudice écologique. Bon. La seconde conception, elle, est davantage de droit mou et elle est issue en grande partie de la directive européenne du 21 avril 2004 qui, je cite, « a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux, mais pas seulement d'un point de vue purement juridique, aussi par le mécanisme de la RSE ». dont vont ensuite découler les fameuses directives CRDS et CS3D que nous évoquions ce matin. Vous l'avez compris, ça n'est pas tellement sur la première conception que je vais m'arrêter, c'est plutôt sur la seconde, puisqu'elle implique la RSE. Je voudrais quand même signaler au passage, à propos de la première conception, que l'agriculteur échappe parfois à certaines obligations en matière environnementale, et il est bon de signaler ici l'article L311-1-1 du Code rural qui a été institué par une loi récente, une loi du 15 avril 2024, qui introduit dans le Code civil l'article 1253 sur la réparation des troubles anormaux de voisinage. L'article du Code rural précise que cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existantes antérieurement à l'installation du plaignant. C'est la fameuse clause ou loi du coq Maurice dont nous nous souvenons avec émotion. Il est mort, le pauvre, puis. Et à propos duquel le tribunal d'instance de Rochefort avait eu l'occasion de juger que le chant épisodique d'un coq dans une commune rurale et dans un lieu éloigné du centre-ville ne constitue pas un trouble anormal de voisinage. Maurice, il faut dire, était là avant ses voisins parisiens qui étaient venus se mettre au vert. Bon. Depuis, les voisins ont survécu, mais pas Maurice. Alors, je reviens à la seconde conception qui exprime donc la spontanéité d'une forme de démarche normative qui sont parfois encouragées, mais qui ne sont pas imposées par le législateur. Et en ce sens, donc, il s'agit d'une forme de RSE qui est appliquée aux exploitations agricoles. Alors, on observe à cet égard que la RSE peut être présente dans l'organisation juridique de l'entreprise agricole comme une composante de ce qu'elle est, autrement dit comme une composante institutionnelle, et j'évoquerai rapidement ce premier point, et qu'elle peut également se manifester à l'occasion de la réalisation de l'activité, donc dans une composante plutôt opérationnelle, ce que révèle notamment le phénomène de labellisation, dont je dirai également un mot. Quelques mots d'abord sur l'institutionnalisation de la RSE dans l'entreprise agricole, parce que, quelle que soit sa forme juridique, finalement, l'entreprise agricole peut intégrer des critères de RSE, elle peut les graver dans le marbre, et c'est notamment le cas lorsqu'elle est menée en société, cette exploitation agricole. Et là, je rebondis, si je puis dire, sur ce que disait Alain tout à l'heure. Le droit des sociétés est un levier efficace de RSE, notamment depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, pour deux raisons. D'abord, l'article 1833 du Code civil dispose que la société est gérée dans l'intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Comme le relève un auteur, cette loi a donné une nouvelle fonction à l'intérêt social, au-delà d'une notion qui permettait auparavant d'engager la responsabilité des dirigeants. Cet intérêt social est devenu désormais une norme de gestion, et ce faisant, la RSE est consacrée par la loi comme un référent incontournable, mais qui est adjoint à l'intérêt social, qui ne doit jamais primer sur l'intérêt social, en tout cas dans une saine conception des choses, à mon avis, parce que sans cela, si vous voulez, la liberté de l'agriculteur serait remise en cause dans l'exploitation agricole. À cette première disposition de l'article 1833, la loi Pacte en ajoute une seconde, celle de l'article 1835 du Code civil, qui, vous le savez, permet aux entreprises de mentionner une raison d'être dans les statuts de la société, soit lors de sa constitution, soit en cours de vie sociale, quelle que soit d'ailleurs la forme juridique qui est adoptée. Ce nouveau concept en droit positif est assurément à connotation éthique. Qu'est-ce que la raison d'être, finalement ? Mais en tout cas, il est porteur de valeurs. Et ces valeurs sont véhiculées évidemment par la RSE. On songe ici au choix d'une agriculture biologique, de techniques culturales qui sont respectueuses des sols, peu consommatrices d'eau, ou encore de principes agroécologiques. Et sur ce point, la loi du 13 octobre 2014, qui est la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, encourage nettement les exploitations à opérer une transition agroécologique en plaçant, je cite, la performance économique et environnementale des filières agricoles et agroalimentaires au cœur de la politique gouvernementale. À ce titre, la loi crée d'ailleurs une forme un peu particulière de personnes morales que sont les groupements d'intérêts économiques et environnementaux, groupements peu connus, mais qui sont présents dans le code rural et qui ont précisément pour viser la performance à la fois économique, sociale et environnementale des associés. Au-delà de ces diverses dispositions applicables à toutes les exploitations agricoles, la RSE se retrouve également, et là je fais référence à un propos de Najed Brahmi ce matin, elle se retrouve comme un levier d'expansion dans le champ coopératif, ce qui nous renvoie à la thématique de l'économie sociale et solidaire, puisque les coopératives, dans leur ADN, Najed Brahmi l'a bien dit, relèvent du champ de la RSE et inversement, la RSE est une composante évidente du système coopératif. Et d'ailleurs, on retrouve là, je ne développe pas, j'ai pas le temps ici de le faire davantage, mais les actes écrits me le permettront. Nous retrouvons là la présence notamment d'un label qui est intéressant, qui est le label coopérative so-responsable, qui est une évaluation d'un millier de points qui mesure la maturité de la démarche de RSE mise en place par la coopérative agricole. Bon, ces points intègrent des spécificités du monde coopératif. Je pense que notre collègue Marie-Pierre peut-être nous dira un mot cet après-midi de ce que sont les coopératives et notamment l'une en particulier, la MAIF. Toujours est-il que ces labels quand même sont assez rarement associés à l'organisation de l'entreprise, mais ils le sont davantage à l'activité qui est déployée, ce qui me permet de glisser habilement sur la deuxième partie consacrée à la labellisation de la RSE dans l'entreprise agricole. Les labels, bon, sont des marques collectives qui attestent qu'un produit, un service, un site respectent un certain nombre de normes qualitatives qui sont définies dans un cahier des charges qui soit arrêté par contrat, soit parfois de façon réglementaire. En matière de RSE, ces labels existent, mais ils sont assez méconnus. Les parties prenantes, notamment les consommateurs, ont du mal à les identifier et d'ailleurs parfois ils les identifient par erreur à des labels de qualité ou des labels d'origine qui pourtant ne sont pas des marqueurs de l'agroécologie, ou alors ils sont bernés par de faux labels comme une forme de greenwashing. Nous réaborderons cet après-midi ce terme par l'intervention de certains étudiants, enfin en tout cas d'une étudiante en particulier, Mademoiselle Boubara. C'est-à-dire que la certification environnementale donc, doit mieux s'installer dans le paysage agricole et malheureusement, le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture qui a été définitivement adopté la semaine dernière, jeudi dernier, il fallait l'adopter avant le salon de l'agriculture, ce projet de loi n'évoque pas les questions de RSE. Au contraire, la responsabilité environnementale des agriculteurs est partiellement dépénalisée dans la loi qui est donc en attente de publication au profit d'une simple amende administrative qui d'ailleurs est forfaitaire, 450 € en cas de manquement par l'agriculteur à des normes environnementales. Donc vous voyez qu'on est quand même loin de la pénalisation actuelle qui peut le conduire évidemment à des peines beaucoup plus importantes. Alors évidemment, ceci relance l'intérêt d'un recours volontaire au label de RSE qui, eux, certifie la transition de l'exploitation vers la préservation des ressources de l'agriculture biologique, en tout cas au moins raisonnée, ou vers le stockage de carbone, le bien-être animal, la biodiversité, la résilience énergétique. Bon, tout ceci, évidemment, tout en améliorant la qualité des produits et en participant activement à la souveraineté alimentaire du pays. Autant dire que les agriculteurs ici sont tiraillés entre des objectifs qui sont parfois difficiles à concilier. Dans l'idéal, les entreprises agroalimentaires, en tout cas, ou les grands groupes industriels de la grande distribution, devraient inciter leurs fournisseurs, c'est-à-dire les exploitations, à se mettre au diapason de leurs moyens et de, je dirais, de leur propre politique de RSE, parce que la performance individuelle de chaque entreprise est bénéfique pour l'ensemble de la chaîne de valeur. En réalité, elles sont toutes liées entre elles sur ces objectifs de RSE, et c'est d'ailleurs l'esprit des directives qui ont été abordées ce matin par le professeur Coupé. Enfin, les chambres d'agriculture, les, oui, il faut que j'arrête, les ont un rôle à jouer. Bon, certains labels qui ne sont pas proprement de RSE ont aussi un rôle à jouer, le label agriculture biologique, par exemple. Et puis, je voudrais, pour terminer, mettre en lumière deux catégories de labels qui, eux, sont spécialisés dans la RSE, mais dans des domaines agricoles spécifiques. D'abord, deux labels aquacoles, parce que les entreprises aquacoles méconnues sont quand même emblématiques de notre région. La pêcherie est une activité importante et il existe des labels porteurs de RSE. Je pense notamment au label MSC pour les exploitations, disons, de ressources sauvages, hein, la pêche de poissons sauvages, et puis le label ASC. Qui lui concerne les poissons d'élevage. Ces deux labels sont intéressants. Il faut savoir qu'ils ont été mis en œuvre par un accord à la fois du WWF et d'Unilever, qui est donc un grand distributeur, chose intéressante, et que ces labels sont actuellement gérés par une ONG à but non lucratif. Et puis, à côté de ces labels aquacoles, je relèverai deux labels d'entreprises vitivinicoles, puisque c'est là aussi une culture emblématique de l'espace euroméditerranéen. Le label Vigneron Engagé, qui repose sur un cahier des charges qui émane simplement d'une organisation purement privée de vignerons. Et puis le label Terra Vitis, qui a un quart de siècle maintenant et qui est porté par une association, ce label ayant la spécificité d'être l'unique certification nationale propre à la viticulture qui soit reconnue par le ministère de l'Agriculture. Bon, à travers ces labels, vous voyez bien que l'entreprise agricole s'approprie davantage la RSE avec des surcoûts qui cette fois-ci sont consentis, puisque les entreprises acceptent d'adhérer, sans contraintes juridiques, étatiques. Disons, ce sont des contraintes là aussi consenties. Et de ce point de vue-là, il me paraît juste que la RSE demeure une philosophie empreinte de prise de conscience et de spontanéité de l'action. Je vous remercie.